Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, il est le premier à avoir dénoncé le banditisme corse. Claude Chaussat est menacé de mort.
Jusque dans le tribunal d'Aix-en-Provence, où il est jugé aujourd'hui pour le meurtre d'un membre du gang de la Brise de Mer. La justice devrait-elle le protéger? Il demande le statut de repenti. En quoi ça consiste? C'est la question du 8h. La réponse dans un instant. Trafic fortement perturbé sur l'axe atlantique. Nouvelle grève à la SNCF. Et puis on verra comment la mort d'Abou Bakar al-Baghdadi est aussi une opération de com pour Donald Trump. Le président va-t-il reconquérir son électorat en vue de la présidentielle?
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
C'est un homme qui a voulu briser la loi du silence et qui maintenant craint pour sa vie. Ouverture aujourd'hui du procès de Claude Chaussat. Il comparaît à Aix-en-Provence pour le meurtre de Richard Casanova en 2008, ancien ponte de la Brise de Mer. Il a informé la police, la justice, c'est le premier d'ailleurs. En échange, il espérait être protégé par l'État.
Je donne des noms, je donne des adresses, je donne des comptes bancaires, je donne un système, je donne des réseaux de blanchiment, je donne le fonctionnement des cercles de jeux parisiens qui étaient à l'époque la machine à cash de cette mafia. Je reste extrêmement vigilant parce que moi j'ai toujours des retours qui me viennent de Corse. On me fait passer le message de ne pas aller à mon procès. Que mon assassinat était prêt, moi je vais me rendre à Aix-en-Provence, je vais dire ce que j'ai à dire et au contraire essayer de mettre encore un coup de frein à cette mafia.
Témoignage exceptionnel recueilli par Cindy Hubert pour RTL.
Alors lui se dit d'ailleurs repenti, mais c'est un statut officiel prévu par la justice française pour les collaborateurs de justice. Il permet de protéger les indics. Dans quelle mesure? C'est la question du 8h.
Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Vous avez mené l'enquête. Alors c'est quoi concrètement ce statut de repenti?
Eh bien un peu comme en Italie ou aux États-Unis avec le programme de protection des témoins, le statut de repenti permet à un ancien malfaiteur de collaborer avec la justice, donner des informations sur tel ou tel groupe mafieux par exemple, et en contrepartie, la justice s'engage à le protéger, parfois même à réduire sa peine de prison. Cela fait maintenant 5 ans que ce dispositif de collaborateur de justice, comme on dit pudiquement, existe. Il faut pour cela que le malfaiteur en fasse la demande auprès d'une commission, la Commission nationale de protection et de réinsertion. Une fois le feu vert donné, l'ancien malfrat peut obtenir une nouvelle identité, mais aussi une nouvelle légende, comme on dit, un passé totalement réinventé pour lui, pour sa famille et des aides financières. Tout ça pour éviter que ceux contre qui il a témoigné ne puissent le retrouver. Mais attention, cette nouvelle identité peut à tout moment être supprimée si l'ancien gangster reprend ses activités illicites.
Et est-ce que ça marche comme chez nos voisins italiens ou aux États-Unis ?
Alors non, ça fonctionne moins bien en France. Le ministère de la Justice ne souhaite pas communiquer de chiffres exacts, mais l'an dernier, on comptait moins de 10 repentis. Le frein principal à cela, c'est que tous les malfrats ne peuvent pas y prétendre. Pour le moment, ce statut n'est pas autorisé pour les personnes soupçonnées d'avoir participé à un homicide, ce qui élimine tout de même beaucoup de candidats potentiels dans le milieu du grand banditisme, comme Claude Chaussat, dont vous venez d'entendre le témoignage.
La question de 8h avec Guillaume Chiez.
RTL Matin 8h03.
Ça tombe mal, hein, en pleine vacances scolaires de la Toussaint, grève à la SNCF.
3 TGV sur 10 seulement sur l'axe atlantique. La mobilisation des agents du centre de maintenance de Viry-Châtillon paralyse le trafic au départ de Paris vers l'ouest de la France. Mouvement qui pourrait s'étendre jusqu'à ce mercredi. Vincent Serrano, vous êtes gare Montparnasse et il y a déjà beaucoup de trains supprimés sur les tableaux d'affichage.
Oui, seuls 3 TGV annoncés au départ entre 8h et 10h et des dizaines de voyageurs qui ont du mal à quitter des yeux le grand panneau d'affichage dans le hall où Nadia découvre il y a quelques minutes que son train pour La Rochelle est annulé.
J'ai des enfants, c'est pas un voyage forcément pour moi, c'est un voyage qui est fait pour eux et c'est triste de voir. Alors c'est bien de nous dire qu'ils nous remboursent les billets, mais là on peut pas. On va voir avec le train suivant, je suis prête à voyager debout. C'est dingue, hein, surtout une période de vacances.
Et que vous a dit la SNCF?
Alors ils nous ont dit d'attendre. Il faut courir dès qu'ils affichent les quais. Ben oui, je fais bonne figure pour mes enfants.
Mais la plupart des voyageurs décident de monter dans le premier train qui part, ce qui crée quelques bousculades au niveau des quais. Esther s'apprête à les esquiver. Elle a beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre cette grève.
Au début, on est un peu solidaire, puis au bout d'un moment, on ne l'est plus du tout. On a supprimé mon train de 7h45 à destination de Nantes. La semaine dernière, c'était la même chose pour Avignon. Et on a supprimé mon train et je n'ai pas pu partir. J'ai dû payer un autre billet pour partir le lendemain. Toutes les vacances, on passe son temps à se demander si on va partir. Et on va voyager debout, alors qu'on a payé notre billet.
La SNCF ne garantit aucune place assise aujourd'hui et invite les voyageurs à échanger ou à se faire rembourser leur billet.
Vincent Serrano en direct de la gare Montparnasse à Paris pour RTL. La réforme des retraites, Emmanuel Macron ira jusqu'au bout. Il l'a confié dans une interview exclusive à écouter dans son intégralité dès 8h20. Et je vous propose d'ores et déjà d'en écouter un extrait.
Moi, je comprends tout à fait quelqu'un qui est à EDF, à la RATP ou à la SNCF, qui a 48 ou 50 ans et qui proteste. Et donc, il faut qu'on trouve une solution intelligente. Il est rentré avec un pacte avec la nation. On lui a dit, vous allez travailler dans cette entreprise, voilà vos droits. Est-ce qu'on peut tout bousculer du jour au lendemain? Non. C'est pour ça que je dis, il faut donner du temps à la transition. Mais il ne faut pas que nos compatriotes qui travaillent dans des services essentiels considèrent que leur mobilisation soit de nature à bloquer des familles ou des travailleurs. On les entendra. Moi, je ne ferai pas une réforme qui nie ce que sont les droits acquis d'individus. Mais je leur dis en conscience, vous ne pouvez pas sincèrement et raisonnablement me dire on va embaucher avec les mêmes règles. C'est pas possible. Je veux aller au bout de cette réforme. Je pense qu'elle est nécessaire pour le pays. Donc je la défendrai, peut-être que ça me rendra impopulaire. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages, mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance.
Interview réalisée dans l'avion présidentiel par William Galibert pour RTL à réécouter donc dès 8h20. Le président reçoit ce matin les représentants du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Au menu des discussions, le port du voile pour les accompagnantes de sorties scolaires qui fait polémique. Réunion à 9h30 à l'Élysée. Des mesures devraient être annoncées dans les prochaines semaines.
Dans un instant, la colère d'une mère qui recherche son fils depuis 8 ans. Aujourd'hui, elle attaque l'État, qui a détruit un élément capital de l'enquête. Restez avec nous.
RTL Matin, 8h06.
Le cross du... RTL Matin.
RTL 8h07, la suite du journal. Aude Vernuccio, Yves Calvi.
8 ans après la disparition de son fils, une maman a signé la justice pour faute lourde.
Son petit Mathis aurait 16 ans aujourd'hui, porté disparu à Caen. Il aurait été enlevé par son père. L'homme a d'ailleurs été écroué. Mais depuis le procès, pas d'avancée sur l'enquête. Le camping-car du père a même été vendu. Alors comment la justice a pu laisser faire? Nathalie, la mère de Mathis, pointe une faute grave. Vous l'avez rencontrée pour RTL, Frédéric Veil.
8 ans, cela fait 8 ans que Nathalie Barré n'a plus de nouvelles de son fils. Le père de ce dernier, écroué pour enlèvement, est toujours muet derrière les barreaux. L'enquête toujours ouverte se poursuit, mais trop lentement au goût de cette maman qui assigne donc la justice française pour retard dans la gestion de l'enquête et faute lourde.
Il y a eu une faute lourde. Le camping-car qui appartenait à M. Joanneau a été vendu. C'était super important de garder parce que comme l'enquête évolue, il était impératif que le camping-car reste dans les scellés.
Oui, car le camping-car est, selon Nathalie Barré et son avocate, considéré comme probable scène de crime. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette maman est exaspérée.
C'est la justice qui mène la danse, donc on ne peut pas faire autrement qu'avec elle. Et si elle ne bouge pas, l'enquête ne bougera pas. C'est pour ça qu'on a fait cette assignation. Parce qu'on parle d'un enfant quand même, c'est mon enfant, c'est Mathis. Quand on est au bout de 8 ans, sans aucune nouvelle et avec une justice qui est trop lente, moi j'en peux plus quoi, j'en peux plus.
Mathis, qui aurait 16 ans, aujourd'hui n'a, on le rappelle, plus été vu depuis le 4 septembre 2011.
Reportage signé Frédéric Veil pour RTL.
La mort d'Aboubacar al-Baghdadi ne signifie pas la fin de la lutte contre Daesh.
Réaction de la ministre des Armées dans le Parisien ce matin. Florence Parly appelle à poursuivre le combat. Le calife autoproclamé de l'État islamique est mort comme un chien, a annoncé hier Donald Trump. Le président américain s'est prononcé en direct sur les chaînes télé du monde entier. Fragilisé dans son propre camp, impopulaire et de retour en campagne en vue de la prochaine présidentielle. C'est une opération destinée aussi à reconquérir son électorat, Philippe Corbet.
Ah oui, le jour de gloire est arrivé pour lui, le plus éclatant depuis son arrivée au pouvoir, d'autant plus qu'il était accusé jusque dans son camp de laisser le champ libre à Daesh en retirant les troupes de Syrie. On sait maintenant que l'opération Baghdadi a été accélérée à cause de ce retrait. Victoire symbolique et politique à un an de la présidentielle. Il tient à s'attribuer le mérite de cette opération. Il savoure ce moment, d'abord en aguichant ses millions de partisans sur Twitter, puis en parlant pendant 50 minutes en direct depuis la Maison Blanche. Il insiste pour dépeindre al-Baghdadi en lâches qui pleuraient, les djihadistes en chiens apeurés et en losers, comme dans un film, dit Donald Trump, qui cherche toujours à apparaître comme le plus fort, à dépeindre ses adversaires en faibles. Par exemple, il répète 6 fois que al-Baghdadi gémissait dans ses derniers instants. Son ministre de la Défense, qui était à ses côtés, lui, n'a rien entendu et ajoute qu'il n'était pas possible d'entendre quoi que ce soit sur les images de drones en direct. Mais ce dimanche soir, lorsque le président arrive au stade à Washington pour la finale du championnat de baseball, il est hué. Le plus grand jour de la présidence Trump se termine par des sifflets.
Merci à vous, Philippe Corbet, correspondant de RTL à New York. Les États-Unis qui font face à de violents incendies. Plus de 12 000 hectares sont partis en fumée en Californie. King Cave Fire, c'est son nom, a provoqué l'évacuation de 180 000 personnes au nord de San Francisco. Au Chili, l'état d'urgence a été levé cette nuit. Le président Sebastián Piñera fait un nouveau pas envers les manifestants. Des milliers de militaires avaient été déployés pour contenir la gronde sociale qui fait rage depuis 10 jours. De violents heurts ont opposé protestataires et soldats. Ils ont fait 20 morts depuis le début du mouvement. Du sport, à présent, doit-on encore l'appeler le Classico ? Les Parisiens ont étrié les Marseillais au Parc des Princes hier. Score de 4 buts à 0. Doublé de Mbappé et doublé d'Icardi. Rien que ça. Et puis deux Français sur le podium à Solden en Autriche. Alexis Pinturault remporte la première place au slalom géant de ski, suivi de son compatriote Mathieu Fèvre.
Et on termine avec l'histoire du jour, Aude.
Et on repart aux États-Unis. Mmh. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire pour Halloween.
Je traîne au travail.
C'est vrai. Ben, je vais vous donner le bon filon si jamais vous partez en vacances pour gagner un peu d'argent. Ah. Âme sensible, s'abstenir. Partons à présent dans le Tennessee, dans le manoir hanté qui offre 20 000 dollars à celui qui va au bout de l'attraction. Et vous savez quoi, en 2 ans, ça n'est jamais arrivé.
C'est pas vrai.
Il faut savoir que le tour de la désolation, voilà comment ça s'appelle, dure quand même 10 heures. Et c'est pas pour les mauviettes. Il faut avoir 21 ans, un certificat médical et surtout le cœur bien, bien accroché.
Moi déjà, le train fantôme, ça me terrorise. Donc je ne suis pas fait pour ça. C'était donc le journal d'Aude Verducio.